Bonsoir à tous. Laetitia Calmen s'excuse ce soir. Elle a un cours. Et donc je ne la remplacerai pas, mais je ferai ce que je peux. Dans le temps qu'il est. En une demi-heure. Alors nous allons confier la Sainte Vierge, si vous le voulez bien. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, à l'heure de notre mort. Jean d'Abry, vous ne le connaissez pas, et pourtant, Jean d'Abry était journaliste, au début du XXe siècle, et il était aussi le copilote de Mermoz. Et c'est lui qui a accompagné Mermoz avec le radio-navigant Léopold Gimier. Ils étaient trois dans l'avion qui s'appelait Comte de Lavaux. Et pour la première fois, avec du courrier à bord, ils ont été de Saint-Louis du Sénégal à Natal, au Brésil. Mais la traversée s'est faite avec des moments très très difficiles, et Jean d'Abry raconte. Le moment le plus difficile fut la traversée du Poteau Noir. Nous l'avons abordé deux nuits. J'étais à côté de Mermoz. J'attendais la fin de ce mauvais moment. Nous étions suspendus au rythme du moteur, qui diminuait à cause de l'eau torrentielle qui s'engouffrait. Nous étions à 1000 km de Dakar. Gimier tendit un message à Mermoz de la part où il était écrit, donc de la part de sa maman, sur lequel était écrit « Je suis avec toi, Jean ». Voilà, le gars, il est au milieu de l'Atlantique, il va peut-être y passer, et il entend ce message de sa mère, « Je suis avec toi, Jean ». Alors pourquoi est-ce que je vous raconte cette petite histoire? Parce que pour moi, elle est tout à fait symbolique de ce que la Sainte Vierge fait avec nous. Là, c'est la maman de Mermoz qui a agi, mais très souvent, la Sainte Vierge agit exactement de la même façon avec nous, en nous montrant par mille signes, mille petites choses, qu'elle est là et qu'elle est avec nous. Alors, si vous le voulez bien, nous allons méditer un petit peu sur cette façon dont la Sainte Vierge est notre mère, et puis comment est-ce qu'elle est présente avec nous. D'abord, la Sainte Vierge nous enfante. Alors comment est-ce qu'on sait que la Sainte Vierge nous enfante à la vie divine? Eh bien on le sait parce que au pied de la croix, son fils Jésus, au moment où il allait mourir, donc il vient de subir 6 heures de crucifixion, et sa mère est au pied de la croix, et il y a aussi Saint Jean. Alors, par parenthèse, si Jean est au pied de la croix, sans avoir eu de problème avec les Romains, c'est que très probablement, Jean fait partie de la lignée sacerdotale. Donc c'est quelqu'un de connu parmi les Juifs de l'époque. Et donc Jésus s'adresse d'abord à la Sainte Vierge et lui dit « Femme, voici ton fils ». Et il dit à Jean « Fils, voici ta mère ». Et cette phrase est très importante parce que on pourrait se dire « Bon, c'est gentil, c'est romantique ». Le Seigneur est en train de nous dire que ce serait bien de vivre en présence de la Sainte Vierge et que du coup la Sainte Vierge va être présente dans nos vies et puis va nous aider. C'est bien plus fort que ça, bien plus fort que ça, parce qu'en fait, à ce moment-là, la Sainte Vierge devient la mère qu'elle a été pour Jésus, pour chacun d'entre nous. Quand Jésus dit « Femme, voici ton fils », ce n'est pas de lui dont il parle, c'est de Jean. Et c'est de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Pas la question d'abord de prendre Marie chez nous, c'est d'abord de reconnaître que la Sainte Vierge est notre mère. En quoi est-ce que concrètement elle va être notre mère? Eh bien, elle va nous enfanter à la vie divine, c'est-à-dire qu'elle va nous aider à comprendre comment être en relation avec Dieu, comment être en relation avec son Fils, et surtout, comment en vivre. Comment vivre avec Jésus? Alors, quelles conditions est-ce qu'il faut pour cela? Ben évidemment, l'accepter. C'est pour ça que Jésus s'adresse à Jean et lui dit « Fils, voici ta mère ». Sous-entendu, si tu veux comprendre quel fils moi je suis sur la croix, il faut que toi, tu l'acceptes et que tu la prennes avec toi. Donc la Sainte Vierge est présente aux heures les plus sombres de la vie de Jésus, comme elle est présente aux heures les plus sombres de la vie de chacun d'entre nous. Et elle, comme avec Jésus, elle va aussi nous chercher. Souvenez-vous cet épisode de l'Écriture où la Sainte Vierge a perdu Jésus. Alors je ne sais pas si vous vous rendez très bien compte, la Sainte Vierge a reçu la garde de Jésus-Christ de Nazareth, et alors qu'ils vont à l'âge de 12 ans au temple, en rentrant du temple, c'était des caravanes, des grandes caravanes. Alors les enfants allaient d'une famille à une autre. Vous voyez, ils jouaient ensemble le long de la caravane. Et au bout de 3 jours, la Sainte Vierge se rend compte qu'elle a perdu le Fils de Dieu. Imaginez le truc. Perdu le Fils de Dieu. Vous imaginez la tête de la Sainte Vierge en train de regarder Joseph. Le bon Joseph qui regarde la Sainte Vierge et qui lui dit « Là, il y a un problème. » Là, nous avons un gros problème. Plus de fils de Dieu, plus de Jésus. Donc, vous connaissez la fin de l'histoire, ils vont remonter sur leurs traces. Et elle va chercher Jésus. C'est-à-dire qu'elle ne va pas lâcher l'affaire. Elle aurait pu se dire « Bon, il a 12 ans, c'est le fils de Dieu. » Elle est bien placée pour savoir que c'est le fils de Dieu, entre parenthèses. Hein. Et elle est bien placée pour savoir que l'éternel, c'est l'éternel. D'ailleurs, entre parenthèses, vous connaissez la fin de l'histoire, elle va le retrouver au temple, etc., etc., etc. Mais, voilà, elle aurait pu très bien dire, bon, ben écoute, Seigneur, occupe-toi de ton fils. Il y a beaucoup de femmes qui font ça. Comme vous savez, des femmes qui disent, occupe-toi de ton fils. Et beaucoup d'hommes qui disent, occupe-toi de ton fils, d'ailleurs, quand ils s'adressent à leur femme. Vous voyez, comme si la responsabilité n'est peut-être plus la leur, tout d'un coup. Ben, ce que la Sainte Vierge a vécu avec Jésus, puisque nous sommes son fils, ses enfants, elle le vit, elle l'a vécu avec Jésus au temple, mais elle le vit avec chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'elle nous cherche. Et elle pourrait très bien dire, de la même façon qu'elle l'a fait avec Jésus, « Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pas grave, le petit Antoine qui est en train de se perdre, tu peux t'en occuper tout seul. » Non, elle va chercher. Elle va chercher. Et d'ailleurs, pas toute seule avec Joseph. Ce qui est pour nous très intéressant parce que je pense que la maternité de la Sainte Vierge et cette maternité spirituelle qui nous enfante à la grâce, qui fait d'elle qu'elle est médiatrice de toute grâce, très bien, mais n'oublions jamais qu'à côté de la Sainte Vierge, pas loin, il y a toujours Joseph qui est là et qui secrètement peut-être permet que les choses se fassent. Donc la Sainte Vierge nous cherche. Jean de la Croix va dire dans un de ses manuscrits, ça c'est un souvenir un petit peu lointain de quelques lectures anciennes, mais Jean de la Croix dit à un moment, une personne qui dit le « Je vous salue Marie » en se couchant le soir, même par habitude, ayant été le plus atroce des pécheurs dans la journée, sera sauvé. Ça ne veut pas dire que ça suffit pour être sauvé. Dire un « Je vous salue Marie » ne suffit pas pour être sauvé, bien sûr. Il faut aimer. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que la Sainte Vierge ne va pas le lâcher. La Sainte Vierge ne nous lâche jamais. Et surtout pas devant le péché, quand nous péchons. D'ailleurs, ici, on est bien placé pour le savoir. Elle est refuge des pécheurs, pas seulement un refuge où nous sommes confortablement installés dans notre péché et où nous pouvons regarder la Sainte Vierge en devisant gaiement, mais elle nous cherche et en nous cherchant, elle nous apprend à vivre avec Jésus et en nous apprenant à vivre avec Jésus, elle nous sort, elle permet que nous sortions de notre péché, vous voyez ? C'est ce qu'on disait dimanche. La Sainte Vierge va nous aider à comprendre que, par exemple, tout seul, on peut pas devenir des saints. Tout seul, on peut pas marcher dans la vie spirituelle. On a absolument besoin de la grâce. C'est que la grâce, c'est l'action de Dieu dans notre cœur, hein, qui est là dès le baptême. À notre baptême, on a ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, c'est-à-dire que constamment, Dieu en nous agit. Et la Sainte Vierge va permettre que cette action soit efficace, tout simplement en nous rappelant ce qui est important. Vous savez, la Sainte Vierge ne fait pas comme le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, quelque part, d'une certaine façon, il peut être un peu plus brutal, ou il est un peu plus direct. Vous voyez, dans l'Écriture, on voit bien, Jésus est extrêmement direct. La Sainte Vierge, elle nous tourne la tête, vous voyez ? Comme les enfants qui, à la messe, qui regardent à droite et à gauche et qui ne regardent pas dans le bon sens, la Sainte Vierge, elle nous tourne la tête. Elle nous rappelle les choses importantes, voyez. Elle nous aide à choisir les priorités. Et puis surtout, elle ne lâche pas l'affaire. C'est-à-dire que tant que vraiment notre cœur n'est pas converti, elle est là. Elle est là. Alors, elle est présente. Vous savez que l'étymologie du mot « présent », je ne veux pas vous faire toute la, mais simplement vous dire que l'étymologie du mot présent, exactement, ça veut dire devant. Celui qui est présent, c'est celui qui est devant. Devant le groupe, devant le... Voilà. Et la Sainte Vierge est présente. Te, c'est vrai qu'elle est discrète. C'est vrai qu'elle ne crie pas. C'est vrai qu'elle est extrêmement discrète. Même parfois, dans sa présence, on peut arriver à comprendre ce qu'elle veut sans qu'elle ait à dire quoi que ce soit. Ça, on en a fait tout. Enfin, on est nombreux à en faire souvent l'expérience. Mais il y en a une qui en a fait l'expérience, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus, évidemment. Mais aussi Bernadette. Souvenez-vous, la dernière apparition de Bernadette. Bernadette est de l'autre côté du Gave. La Sainte Vierge apparaît là où elle apparaît habituellement, dans la grotte, à Lourdes. Et il ne se passait rien d'autre. Et ça suffit à Bernadette. Ça suffit à Bernadette. Vous voyez, c'est comme les grands amis. Il y a un moment où la parole n'est plus nécessaire. Avec les parents aussi, la parole n'est plus nécessaire, certaines fois. Je fais cette expérience avec mon cher père, qui a la maladie d'Alzheimer. La parole n'est pas nécessaire. Il y a un moment où, quelque part, la providence se débrouille pour que l'amour paternel et l'amour filial s'échangent sans qu'il y ait de mots, simplement par la présence. Simplement juste par la présence. On se sent aimé, on se sent béni. Je me sens aimé et je me sens béni. Et ici, à Notre-Dame des Victoires, évidemment, quand nous venons, quand nous nous agenouillons au pied de cette statue, ou même quand nous sommes là, assis en face d'elle, sans rien dire, et même sans dire forcément le chapelet, elle est là. On sait qu'elle est là. On sait qu'on peut lui confier nos malheurs, nos difficultés. Et quelque part, au fond de notre cœur, on sait qu'on va s'en sortir. Elle a été victorieuse, bien avant d'être victorieuse pour Louis XIII, elle a été victorieuse à la bataille de Lépante, mais elle a été victorieuse, on le verra tout à l'heure, dans des combats extrêmement violents, et par là même, elle nous entraîne dans la victoire spirituelle. Donc elle est devant nous. Est-ce qu'il y a un endroit dans l'Écriture où elle est particulièrement présente avec les apôtres, bien sûr. Avec les apôtres au Cénacle, les apôtres sont enfermés. Petite parenthèse entre vous et moi, vous savez, 12 gars enfermés qu'on la trouille, ça peut dégénérer fermement. Ils auraient pu, y en a un qui aurait pu prendre le leadership, qui aurait pu claquer la porte, qui aurait pu, je sais pas moi, vous voyez. On a vu ça dans l'histoire, hein, dans l'histoire de notre monde. Mais la Sainte Vierge était là, enfermée avec eux, moi je pense. Je pense. La tradition de l'Église, en tous les cas, est d'accord avec ça, la Sainte Vierge. Et pourquoi? Pour toujours la même raison. Pour leur dire que Dieu est là, à côté d'eux, et qu'ils vont gagner le combat ultime, le combat contre le démon, contre le mal. Jean-Paul II, le 6 juin 1987. Encore une fois, il invite tous ses fils et ses filles de l'Église à méditer sur cette présence, à lui faire confiance, à compter sur elle pour surmonter les difficultés, marcher hardiment sur les traces de son Fils avec le souffle puissant de l'Esprit-Saint. Voilà, la Sainte Vierge est présente et elle marche devant nous. Parmi les titres de la Sainte Vierge, il y en a un que j'aime beaucoup. On dit que la Sainte Vierge est l'Arche d'Alliance. Arche d'Alliance. Vous voyez, comme l'Arche d'Alliance était présente au milieu du peuple dans l'Ancien Testament, comme l'Arche d'Alliance était le signe de la présence de Dieu, n'étant pas Dieu, la Sainte Vierge n'est pas Dieu, la Sainte Vierge n'est pas la troisième personne de la Trinité, mais quand elle est là, la grâce passe. Dans le premier livre de Samuel, on peut lire, donc la référence est 1 Samuel 4-7, « Le peuple envoya les gens à Silo, ils en rapportèrent l'arche de l'Alliance du Seigneur, des armées qui siègent sur les Kéroubim. Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pinhas, étaient là auprès de l'arche de Dieu. Quand l'arche arriva au camp, tout Israël poussa une grande ovation qui fit résonner la terre. Les Philistins entendirent le bruit et dirent « Que signifie cette grande ovation dans le camp des Hébreux ?» Ils comprirent alors que l'arche du Seigneur était arrivée dans le camp. Alors ils eurent peur car ils se disaient « Dieu est arrivé au camp des Hébreux ». Puis ils dirent « Malheur à nous, les choses ont bien changé depuis hier. » Voilà. Dieu prend les choses en main et n'abandonne jamais son peuple. Est-ce qu'il y a dans le Nouveau Testament des passages où la Sainte Vierge prend soin de façon très explicite du peuple ou des gens? C'est évidemment, je pense, à Cana. Cana, c'est le moment où Jésus va poser le premier signe de sa gloire. La Sainte Vierge vit avec Jésus depuis 33 ans, hein, et Jésus n'est pas encore sorti du bois, si je peux dire. Ça va être la première fois qu'il va agir. Donc on va là, oui, qu'il va agir. Mais la Sainte Vierge, elle sait qui il est. Comprenez? Il y a entre deux une immense intimité. Je pense que dans le cœur de la Sainte Vierge, elle a envie qu'il passe un peu à l'action, quoi. Que, pas tellement qu'il se révèle comme fils de Dieu, mais surtout qu'il fasse du bien là où il y a le bien à faire, vous voyez. Quand vous avez les moyens de faire beaucoup de bien, et que tout d'un coup vous vous rendez compte que ça va être facile à faire, faut le faire, quoi. Et la Sainte Vierge, vous rendez compte, son fiston, c'est un des trois de la Trinité, quoi. Vous savez, c'est comme nous un peu, toutes choses égales par ailleurs, mais c'est un peu comme nous quand on connaît des gens très très importants de façon intime et qu'on voit des problèmes à droite et à gauche. Oui, t'inquiète pas, je connais machin truc, et t'inquiète pas, il va t'aider. Mais alors, sur un coup de fil, deux coups de fil, une négociation, les choses s'arrangent, vous voyez. Mais la Sainte Vierge, peut-être qu'elle avait dans son cœur cet grand amour pour nous, mais aussi ce grand amour de Jésus qui fait que elle avait peut-être ce désir que son fils passe à l'action assez rapidement. Mais elle est Immaculée Conception, donc patiente, capable d'obéir, capable d'obéir. Et la Sainte Vierge, à ce mariage, se rend compte qu'au bout du troisième jour, les mariages juifs duraient 7 jours, qu'ils n'ont plus de vin. Voilà. Là, il n'y a pas de vin. Le vin, c'est le signe de l'amour, vous savez, pour les juifs. Alors, la Sainte Vierge qui le voit, ça c'est une chose très intéressante, la Sainte Vierge le voit quand il manque quelque chose. La Sainte Vierge voit qu'ils n'ont plus de vin et elle dit à Jésus, écoutez bien parce que le détail compte, ils n'ont pas de vin. Elle ne dit pas « ils n'ont plus de vin ». Elle dit « ils n'ont pas de vin ». Ça veut dire quoi? Elle est en train de dire à Jésus « voilà un mariage, nous sommes les invités dans un mariage, et il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour dans cette alliance. » Vous voyez bien son rôle là, de mère. Elle intervient pour que ce qui doit être bon ait lieu. Et ce qui doit être bon, c'est qu'il y ait de l'amour entre les époux. De même que ce qui doit être bon, c'est qu'il y ait de l'amour dans notre cœur. Et que l'alliance que nous vivons avec le Très-Haut, avec Dieu, elle soit vivante. C'est-à-dire que nous puissions entendre le Très-Haut, que le Très-Haut nous fasse du bien et que nous puissions faire du bien et aimer le Très-Haut. Mais quand ça, c'est mort, Jésus intervient. La gloire de Dieu intervient. Et c'est pour ça que Jésus répond à sa mère, une phrase que nous, en français, on ne comprend pas très bien. « Quoi, femme, de toi à moi ?»« Quoi, femme, de toi à moi ?» C'est-à-dire que Jésus ne renvoie pas sa mère, simplement, il dit qu'il est Dieu. Il dit qu'il n'est pas de l'humanité. La Sainte Vierge comprend. La Sainte Vierge comprend que Dieu est en train de se manifester. Et c'est pour ça qu'elle se retourne vers les serviteurs et qu'elle le demande de remplir les jarres. Les jarres qui étaient à l'entrée de la maison, remplies d'eau pour que les gens, en entrant dans la maison, soient bénis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les jarres sont vides si on les remplit. Si la Sainte Vierge demande à ce qu'on remplisse les jarres, c'est qu'elles sont... Et si elles sont vides, c'est qu'il y a beaucoup de monde à la maison qui sont passés et qui se sont bénis, qui se sont aspergés d'eau. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde dans le mariage. Donc il demande à mettre de l'eau, l'eau qui est le symbole de la mort pour les juifs. Faites ce qu'il vous dira. Ils mettent de l'eau, c'est-à-dire qu'ils mettent ce qu'ils peuvent, de l'eau. Pas du vin, de l'eau. Et l'eau est transformée en vin, c'est-à-dire que ce qui est mortel est transformé en amour, est transformé en vie. C'est un signe qui nous montre ce que Jésus va faire, en fait. Va venir transformer ce que nous sommes en un lieu de gloire et d'amour. La gloire, c'est là où se révèle Dieu. Et c'est exactement ce que nous vivons dans notre baptême. Dieu est là, qui se révèle. Vous voyez, ça se fait par la Sainte Vierge. C'est la Sainte Vierge qui fait ça. La Sainte Vierge marche vraiment avec nous. Et la Sainte Vierge, devant les difficultés de la vie, devant la brutalité, n'a pas peur. Ça, c'est aussi une chose qui est très étonnante. Je voudrais vous lire un verset du Cantique des Cantiques qui, pour moi, parle très bien de la Sainte Vierge. « Ton cou est pareil à la tour de David, solidement construite. » Là, 1000 boucliers sont accrochés, tous sont des armes de héros. » C'est pas une midinette. Elle pleure pas dans son mouchoir dès qu'il y a une vaguelette. La Sainte Vierge, elle a quelque chose de l'ordre du soldat, vous voyez. Elle a quelque chose de l'ordre du combat. Nous, nous avons à combattre contre le péché, mais nous ne sommes pas seuls. Elle nous aide à combattre contre ce péché. Nous avons des tentations que nous avons tellement de mal à repousser. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tous les cas, c'est clair. Mais que faire quand la tentation nous submerge, quand la peur nous submerge, quand on a l'impression qu'on est vraiment décidément de mauvais enfants? La Sainte Vierge vient. Et la Sainte Vierge combat. Est-ce qu'il y a une trace de ce combat de la Sainte Vierge dans l'Écriture? Je voudrais vous lire, puis on terminera peut-être par là, parce qu'il faut qu'on aille se préparer pour la messe. Je voudrais vous lire un passage de l'Apocalypse. C'est Apocalypse chapitre 12. C'est pas ce que je vais vous lire maintenant. N'imaginez pas que c'est quelque chose qui ne soit pas arrivé ou quelque chose de symbolique, comme on dit, c'est-à-dire que ce sont des belles images, mais en fait qu'il n'y a pas de réalité tangible derrière. Bien au contraire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Entre parenthèses, c'est là qu'on a pris le drapeau de l'Europe. Je pense que la Sainte Vierge s'occupe de l'Europe. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de ces 7 têtes un diadème. Sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu, et son trône et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place pour qu'il y soit nourri pendant 1260 jours. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel avec ses anges dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut rejeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la présence et le règne de notre Dieu ». Voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils furent les témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous, plein d'une grande fureur. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Et quand le dragon vit qu'il était jeté sur la terre, il se mit à poursuivre la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors furent données à la femme les deux ailes du grand aigle. Entre parenthèses, pensez à Thérèse de l'Enfant Jésus et à l'aigle, qui signifie Dieu. Alors furent données à la femme les deux ailes du grand aigle pour qu'elle s'envole au désert, à la place où elle doit être nourrie pour un temps, deux temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Puis de sa gueule, le serpent projeta derrière la femme de l'eau comme un fleuve pour qu'elle soit emportée par ce fleuve. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve projeté par la gueule du dragon. Alors, le dragon se mit en colère contre la femme. Il partit faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus, et il se posta sur le sable au bord de la mer. Au bord de la mort. Vous voyez, la Sainte Vierge est victorieuse. Elle n'est pas victorieuse par elle-même. Elle a les ailes du grand aigle, c'est Dieu qui combat. Et souvent, une phrase que j'aime vraiment beaucoup, je crois que c'est Marie de Henzel qui l'a écrit dans un de ses très très beaux livres, alors qu'elle pensait qu'elle s'en sortirait jamais d'une torpeur profonde dans laquelle elle était. Elle a entendu clairement au fond de son cœur cette voix qui disait « Ce combat n'est pas le tien ». Mais je crois que les combats de nos vies spirituelles, dans notre vie, ce sont d'abord les combats de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on y participe et qu'on y mette notre bonne volonté, vous voyez. Mais ce sont d'abord les combats de Dieu. C'est Dieu qui combat en nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire du coup ? Rester en présence de la Sainte Vierge. Rester avec la Sainte Vierge. Ce qu'il faut dire son chapelet, faites ce que vous voulez, mais restez au pied de la Sainte Vierge. Voilà. Comment on sait qu'on est au pied de la Sainte Vierge ? On le désire. Voilà. Quand on désire être au pied de la Sainte Vierge, voilà, on est au pied de la Sainte Vierge. Et moi, je vous encourage fortement à revêtir le scapulaire, ce scapulaire qui est l'habit des enfants de la Vierge. Renseignez-vous et essayez de savoir qu'est-ce que c'est que ce scapulaire, mais c'est l'habit des enfants de la Vierge. Quand nous portons cet habit, de même que quand nous avons la médaille miraculeuse sur nous, c'est le signe de ce désir que nous voulons vivre avec la Sainte Vierge, en présence de la Sainte Vierge, pour que la Sainte Vierge soit notre mère et qu'elle nous garde dans toutes les difficultés que nous aurons à traverser, particulièrement nos combats spirituels, les tentations, et particulièrement au moment d'aller au ciel. Vous voyez, tout petit aperçu pour nous montrer à quel point la Sainte Vierge est présente, à quel point elle est notre mère, et pas seulement notre maman, tendre et délicieuse, mais notre mère qui combat, notre mère qui ne lâche rien, jamais. La Sainte Vierge ne lâche rien, jamais, jamais. Alors nous pouvons, en esprit, souvent aussi, aller poser notre tête sur ses genoux, comme des pauvres enfants, fatigué parfois, et puis lui demander toutes les grâces que vous voulez, toutes, sans aucune exception, parce qu'elle a ce beau titre et cette vocation incroyable d'être médiatrice de toute grâce, parce que Jésus lui a simplement donné chacun d'entre nous. Voilà. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Amen.